Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks.
Et non, nous ne sommes plus dans l'avion. Et nous ne sommes toujours pas des terroristes d'ailleurs, nous ne sommes plus dans l'avion, non, c'était la semaine dernière, alors qu'effectivement nous nous envolions pour la capitale européenne où se déroulait le FOSDEM, un événement majeur pour les libristes sur un week-end avec tout plein de rendez-vous, de conférences que vous pourrez trouver sur le site du FOSDEM bien évidemment. Nous y étions entre autres choses pour assister à une partie de ces événements.
Mais pas que.
Mais pas que, puisqu'il s'agissait aussi de soutenir l'équipe bruxelloise qui organisera les rencontres mondiales du logiciel libre. Ça y est, c'est parti. Ce sera donc début juillet à Bruxelles, mais aussi pour faire un petit tour par le Parlement européen où avaient lieu quelques présentations fort intéressantes.
On aura l'occasion d'y revenir dans l'émission.
Voilà, et puis dans les émissions ultérieures, puisque l'essentiel des communications était faite en anglais, dans la langue de Shakespeare, et votre traducteur doubleur favori a quelques journées de travail devant lui pour vous donner la substantifique moelle de ses interventions, notamment comment libérer votre téléphone portable, la création d'un groupement d'utilisateurs Linux au Parlement, un outil de traçage de base de données, un petit peu comme candidat.fr, mais au niveau du Parlement européen, tout plein de choses très intéressante et notamment ce qui sera au menu du jour, un entretien avec Benjamin Zontag qui nous parlera de Bruxelles, du Pifone, de l'Open Media Kit, de la quadrature du net, de liberté numérique et puis aussi un petit peu d'autopromo autour de AlternC. Mais n'oublions pas que il y aura aussi la revue de presse de l'April pour la semaine 5 par Luc et Manu, car Nico était retenu pour des raisons professionnelles. Revue de presse qui parlera du brevet logiciel, du travail contributif, du domaine public, qui est aussi un moteur économique en ces temps de polémique autour des décisions de la Bibliothèque nationale de France. Les acteurs du libre français qui lancent une pétition pour dégrouper les clouds souverains, l'éducation avec Creative Commons, Secure Boot et Linux, les hackers, pourquoi tant de mecs. On parlera aussi de Montpellier avec l'Open Data et puis de la filière Open Source qui va bien, merci. Ça sera pour la nouveauté de la semaine, pour la nouveauté de la semaine, pour la revue de presse de la semaine numéro 5, n'importe quoi. Mais il y aura évidemment aussi de la musique, Pascal.
Et oui, avec des artistes azurins qui rencontrent Grazielite. Donc entre un mélange entre une Canadienne et des Anglais sous un label que l'on connaît bien puisque c'est 33 Seconds.
Voilà, la musique de John Purcell et les textes de Grazielite, dont on n'aurait pas pensé qu'elle était canadienne. Et ce sera sous licence Creative Commons by SA 3.0. Une bonne collaboration entre ces deux artistes, un groupe très actif dans la musique libre, puisqu'il a déjà publié 7 EP en 3 ans sur le net label 23 Seconds. Pour l'heure, eh bien, il est temps de retrouver nos amis de la revue de presse de l'April. Et on se retrouve tout de suite après, bien évidemment.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 5, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Nicolas est retenu par une mise en production tardive.
Eh oui, c'est ça, d'être informaticien.
Eh oui, toujours des bonnes excuses.
Donc, 9 articles cette semaine. On va vous parler de brevets logiciels. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on en parle? À l'ère du travail contributif, le domaine public, les acteurs du libre français qui lancent une pétition, l'éducation et les Creative Commons, le Secure Boot, encore une fois. On va parler de diversité, qui va nous faire un nouveau sujet, je dirais. L'open data à Montpellier. Et pour finir, on reparle d'un sujet dont on avait déjà abordé, qui concerne la filière de l'open source en France.
Après ma blog, protéger le secteur du logiciel des brevets par Richard Stallman himself. Enfin, traduit par nos camarades de Framasoft avec la relecture du groupe Trad GNU de l'April.
Et oui, un bon travail encore une fois. C'est un article tout récent, il me semble, il doit sortir de Slate, donc un article de Stallman, qui présente une solution potentielle face aux brevets logiciels, parce que, bah, il faut le constater, les brevets logiciels sont là, enfin il y en a actuellement en Amérique, mais aussi en Europe, et on ne va pas s'en débarrasser du jour au lendemain.
Oui, alors c'est quand même très centré sur la situation dans les pays où ils ont déjà le brevet logiciel. Nous, on craint que ça arrive au travers du brevet unitaire, on en a beaucoup parlé depuis un petit moment déjà, et donc là, c'est vraiment centré sur les pays qui ont déjà du brevet logiciel. Et la solution, Manu, c'est quoi ?
La solution, bah, ce serait de rajouter une clause légale qui dit que quand on fait du logiciel, eh bien, on ne peut pas être attaqué sur des bases de brevets logiciels.
Oui, alors l'article revient sur pourquoi le brevet, c'est pas bien, etc., avec des subtilités qui sont toujours assez intéressantes chez Stallman, puisqu'il est extrêmement attentif à la question du langage. Et c'est vrai qu'on voit toujours des petites subtilités qui avaient pu nous échapper avant. Cette solution, elle est vachement intéressante parce qu'elle a déjà été mise en place dans un domaine qui est celui du domaine des chirurgiens qui, en gros, peuvent utiliser des méthodes de chirurgie brevetées et qui sont assurées par la loi de ne pas être poursuivies pour ça. Donc, il y a des précédents dans le domaine.
Moi, j'approuve beaucoup ce genre de solution. C'est une solution qui paraît élégante. Et ça, c'est vraiment au crédit de Stallman. Hein. Il propose des idées assez novatrices. Voilà, plutôt que de chambouler tout, et il sait que ça va être difficile, même s'il voudrait, hein, il propose voilà, un petit changement, une petite modification que les opposants, enfin, que les gens qu'on n'aime pas n'ont pas forcément vu venir et qui pourraient solutionner tout ça.
Bon, il admet quand même une faiblesse à sa démarche, qui est qu'on ne pourrait pas couvrir les appareils qui intègre du logiciel, mais de façon complètement cachée, où on ne serait pas dans le cas d'un ordinateur ou d'un téléphone où on installe une appli, mais vraiment d'une application intégrée dans un matériel. Et du coup, on va se rapprocher de l'exception qu'on connaît déjà, nous, en Europe, sur le logiciel en tant que système. Enfin, mais cette idée qu'à partir du moment où c'est totalement intégré dans du matériel, ben là, on peut le breveter.
Alors, juste pour finir, je te dirais, hein, attention, en Europe, on a bien du brevet logiciel, c'est-à-dire qu'on a des brevets qui sont acceptés depuis des dizaines d'années. C'est juste qu'ils ne sont pas vraiment valables légalement, mais bon, on n'est pas ça prêt.
Rue 89, Bernard Stiegler, nous entrons dans l'ère du travail contributif. Une interview réalisée par Elsa Fenner.
Donc Stiegler, on l'a déjà abordé ici, c'est un philosophe.
C'est un philosophe dont l'activité est très centrée vers la vulgarisation. Donc c'est quelqu'un qui émet des idées qui sont tout à fait accessibles et qui sait les rendre accessibles.
Il a l'air aussi d'avoir un certain poids, il a l'air d'avoir travaillé au sein de pas mal d'institutions, parfois même il les a dirigées.
Donc il a dirigé notamment l'INA, l'IRCAM, l'IRI, qui est l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a la bouteille, qui s'intéresse à ces sujets-là depuis longtemps, on en a parlé plusieurs fois, intervalles réguliers dans la revue de presse. À chaque fois qu'on a parlé de Stiegler, on a souvent remonté le fait que il était quand même ancré dans une tradition intellectuelle française à base de marxisme et de psychanalyse. Et ce qui est intéressant dans cette interview, c'est que manifestement, au niveau du vocabulaire en tout cas, il essaye de rompre avec ça, il utilise du vocabulaire très commun. Bon, il a un côté un petit peu à faire des prédictions sur ce que ça va devenir et tout ça. Donc on a peut-être un petit peu de mal à voir comment on peut passer de la situation actuelle à ce qu'il décrit. Mais au final, ça peut-être être une source d'inspiration.
Moi, j'avoue que j'apprécie pas mal, hein, parce qu'il y a une forme d'ancrage dans ce qu'on connaît au mieux, hein, le logiciel libre. C'est un exemple de l'évolution qu'on a dans le travail, dans ce qu'il appelle du contributif, des gens qui participent de manière horizontale. Donc, on change l'organisation de la société. C'est peut-être que l'analyse marxiste ne va pas forcément s'appliquer, hein, on dirait. Et il parle même de déprolétariser. Et là, pour le coup, le terme, on voit bien d'où il vient, mais c'est pas mauvais parce qu'effectivement, on a des gros changements, on est peut-être au cœur d'une révolution. On pourra en reparler dans 20 ans, avec certitude, mais ça n'empêche, j'apprécie que quelqu'un avec de la bouteille comme lui, du recul, nous prenne comme un exemple et nous voit comme une base à un changement de société.
Libération.fr, le domaine public est aussi un moteur économique. Interview de SFA, on ne sait pas qui c'est, donc qui est une interview de Lionel Morel, qui est passé très souvent dans la revue de presse sous le nom de Calimac, c'est son pseudo.
Ah zut, j'avais même pas fait gaffe.
Ah, t'étais pas au courant.
Et non, et effectivement, et voilà. Pourtant, il a fait pas mal de choses qu'on aime bien. Et là, il parle de bien commun, ce qu'on aime beaucoup aussi.
Et de domaine public, il revient sur des sujets qu'on a évoqués, et notamment il y a très peu de temps, enfin, ça fait partie des questions sur la Bibliothèque nationale et la numérisation. Il revient sur une affaire que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à l'occasion de cet article, qui était Sonny Dylan. Et donc ça, c'est assez intéressant. Sonny a sorti une compilation de chansons de Bob Dylan qui n'avait pas été publiée depuis près de 50 ans.
Enfin, voilà.
Mais il a sorti à 100 exemplaires. Alors, est-ce que c'était et à un prix tout à fait raisonnable, donc c'était pas un coup pour essayer de soutirer un max d'argent aux fans?
Non, c'est pas sous cette forme-là que ça s'est vu, mais par contre, le titre montre un petit peu pourquoi ils l'ont fait. Et là, ça fait mal. C'est The Copyright Extension Collection. La collection de l'extension du droit d'auteur.
Et oui, parce qu'il y a une loi qui dit que si on n'a rien fait des enregistrements pendant 50 ans, et ben, ils tombent dans le domaine public, parce qu'en gros, il faut s'en servir. Donc, l'échéance arrivant, Sony a fait un petit machin vite fait, mal fait, sorti à très peu d'exemplaires, c'était pas là pour vendre, c'était juste là pour étendre les
ouh,
droits.
On a bossé, regardez, nous le piquez pas, on a encore besoin de faire du fric
voilà,
avec.
En tout cas, donc, ce juriste parle du domaine public en disant que c'est quelque chose d'important, qu'à partir du moment où il y a des œuvres qui tombent dans le domaine public, elles peuvent être republiées par toute une série d'éditeurs, et que bah, tout ça, ça fait de l'activité. Et cette idée que le domaine public va contre le business et le fait d'avoir des éditeurs qui puissent gagner de l'argent, bah, il démontre que c'est faux. Le Magaïti des acteurs du libre français lance une pétition pour dégrouper les clouds souverains. Un article de Cyril Chausson.
Et oui, il y avait eu beaucoup de fric qui a été débloqué pour monter des boîtes, des nouvelles boîtes, pour faire du cloud, du nuage à la française.
Oui, bah en fait, ce sont des trucs publics ou parapublics avec des financements de l'État. Grosse machine pour mettre, voilà, pour faire, mettre ce truc en place. Et ça fait grincer des dents, notamment du côté des PME qui disent ben, ça fait 6 mois que c'est en place, ils n'ont toujours rien sorti, vous auriez mieux fait de nous donner l'argent à nous, on aurait fait mieux.
Alors, c'est pas vrai, ils ont sorti des publicités. Hein, vous avez peut-être déjà vu des CloudWatt un petit peu partout, c'est de la pub, avec des financements qui viennent du grand emprunt. Donc, c'est pas rien, il y a vraiment des millions et des millions. Et eux, ils demandent à dégrouper, c'est-à-dire à pouvoir mettre quoi, leur propre bécane dans ces clouds et à pouvoir gérer ça, c'est-à-dire à pouvoir utiliser l'infrastructure commune.
Oui, donc il y a toute une série d'acteurs qui ont signé cette pétition. L'April ne l'a pas signée. Bon, d'une part, les délais étaient courts et d'autre part, ça n'impacte pas cette question de la liberté d'utilisateur qui est le centre de notre préoccupation. C'est une question bah, de business, c'est légitime, hein, il n'y a pas de critique là-dessus, mais ce n'est pas vraiment notre sujet d'intérêt. Et en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que la démarche, elle n'est pas d'aller faire un procès, où, et ils le disent très clairement, ou de crier contre l'État en disant « voilà, c'est scandaleux », mais c'est d'essayer de se brancher là-dessus. Donc je trouve que la démarche est plutôt intéressante. Framablog, l'éducation utilise une licence Creative Commons défectueuse. Encore un article de Richard Stallman, c'est un festival.
Et oui, et du Framablog encore, ils font du travail en ce moment, ils traduisent à tour de bras. Et donc là, on reparle d'un sujet qu'on avait déjà évoqué, c'est la clause non commerciale des Creative Commons.
Et oui, donc c'est Creative Commons qu'on peut utiliser, des licences qu'on peut utiliser pour des œuvres non informatiques.
Ouais, en tout cas, c'est comme ça que c'est recommandé. Hein,
voilà, c'est un peu l'idée. Et donc, elles sont plutôt à géométrie variable. On peut décider d'avoir des clauses non commerciales, des clauses qui interdisent les modifications. Et donc, Stallman, lui, dit qu'il n'est pas contre ces licences à partir du moment où elles s'appliquent à quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Et donc, il dit notamment, bah, une œuvre littéraire, par exemple, une œuvre d'art, ce n'est pas un objet fonctionnel. La liberté de l'utilisateur n'est pas contrainte par cette œuvre-là. Donc si elle n'est pas libre, c'est pas un problème. En revanche, il dit à partir du moment où on est dans le domaine de l'éducation, comme par exemple sur des cours, et ici des choses du MIT, et qui utilisent des licences non commerciales, les supports de cours et ce genre de choses, ce sont des œuvres fonctionnelles.
Donc là, bah, il faudrait les mettre en commun et éviter justement cette espèce de terminateur qui est la clause non commerciale. Et oui, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, on a déjà évoqué. Qu'est-ce qui est vraiment commercial, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est déjà très complexe à mettre en œuvre. Et en plus, là, bah, vous donnez des cours, les cours sont peut-être payants à un moment donné, bah, vous devez rentrer dans ce cas non commercial, j'imagine.
Voilà, et ce qui met aussi vraiment en avant, c'est de dire qu'à partir du moment où c'est une licence non commerciale, on peut imaginer faire du commerce avec, mais il faut pour savoir l'autorisation des auteurs. Et à partir du moment où c'est une production contributive, on peut imaginer quelque chose et très rapidement des centaines, voire des milliers d'auteurs. Et donc, réussir à négocier cette exception, ça devient très rapidement impossible parce que bah voilà, si on a 100 personnes, la probabilité d'en avoir une sur laquelle on n'arrive jamais à remettre la main, elle est quand même très importante. ZDNet.fr, Secureboot et Linux, les critiques montent et la FSF pétitionne. Un article de Thierry Noisette.
Oui, on en parle et on en reparle. Le fait que les ordinateurs, souvent avec Windows hein, et sous
Windows
l'initiative
8.
De Microsoft, sécurisent soi-disant le boot et vous empêchent de mettre autre chose dessus comme vous voulez.
Autre chose que Windows 8, c'est-à-dire que même les anciens Windows ne tournent pas sous la machine. Donc Microsoft, contre $99, autorise d'autres systèmes d'exploitation à tourner. mais ça fait quand même grincer pas mal dedans. Donc aujourd'hui, certaines distribs l'ont fait. Il y a Red Hat, Canonical, donc pas Ubuntu qui ont payé ça. Mais manifestement, ça pose encore des problèmes.
Bah, notamment, il y a des ordinateurs qui viennent de planter de manière assez grave et on pense que c'est lié à ce système-là parce que bah, il a probablement détecté un système d'exploitation pas tout à fait toléré et ça a vraiment viandé. Ça doit être des bécanes Samsung, il me semble. En tout cas, on n'est pas encore certain de quoi que ce soit. En tout cas, la FSF et l'April à sa suite ont lancé une pétition pour essayer de stopper ce système-là. C'est un gros système destructeur de liberté et qui est en route et on voit difficilement comment ça va s'arrêter. Donc, faut commencer tout de suite. Donc, venez voir, allez lire l'article et éventuellement...
Allez signer la pétition. Les Inroc hackers, pourquoi tant de mecs ? Un article de la rédaction.
Donc, jolie photo de Millennium et voilà, un vieux sujet. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes et les femmes se font trop rares, donc ça doit être 10%.
Chez l'hacker, ils annoncent 10% de femmes, ce qui est évidemment très très peu, et des sujets qu'on connaît très bien dans le logiciel libre aussi, sur des problèmes de...
Machisme, on va dire.
Ce sont des choses qui remontent, alors ça fait toujours des trolls énormes et infinis. Certaines femmes disent que pas de problème, d'autres disent qu'effectivement c'est assez pénible. Et qu'il suffit que quelques gros lourds pour vraiment plomber l'ambiance. Et voilà, il y a des exemples assez rigolos avec...
Compris un exemple de Stallman, hein, il y a une citation, oui. Je veux pas la ressortir, ça me fait mal au cœur. Donc allez jeter un œil. Bon,
voilà, ce que je trouvais rigolo, c'est qu'il y avait il parle d'un hackerspace avec une crèche qui avait été créée. Et là, c'était les mecs qui étaient mal à l'aise d'avoir des gamins partout.
Oui, comme quoi, finalement, il y a peut-être simplement des stéréotypes dans lesquels on rentre pas facilement. Et petit détail, dans d'autres pays, dans d'autres zones du monde, c'est le contraire.
Ça, c'est super intéressant parce que, c'est cette différence homme-femme, elle est aussi complètement liée au métier technique et au métier de l'informatique, où ce 90-10, on le retrouve dans les métiers de l'informatique. Et il s'avère que dans le monde, en Afrique du Nord, enfin autour de la Méditerranée, parce que c'est pareil au Liban, mais on a des hackerspaces où il y a en gros une parité et des filles qui vont prendre des responsabilités sur ces mouvements hackers là-bas. Et donc voilà, un rapport à la technologie complètement différent, et ça, ce serait vraiment intéressant de les creuser. Tout Montpellier, à Montpellier, l'open data au service des personnes handicapées, un article de Philippe Bourguet. Donc voilà, un article sur ce qui se passe chez vous, c'est super. Donc c'est les activités de vos libristes locaux qui travaillent, qui s'intéressent notamment à OpenStreetMap et aux questions d'accessibilité.
Et oui, ils vont se promener dans les rues et ils sont tout un groupe. Ça a l'air d'être assez fun. L'idée, c'est de cartographier, de voir, est-ce que tel magasin a une marge d'entrée qui est un peu trop haute ou qui est bien comme il faut. Voilà, est-ce que tout ça, c'est facilement accessible pour tout le monde. Donc il faut les aider, il faut les encourager. Et puis c'est fun, vous allez rencontrer du monde. Dans un endroit qui est quand même bien sympa.
Voilà, puis c'est l'occasion de découvrir tout ce dont on vous parle dans la pratique. Vous verrez en plus ça, les OpenStreetMap, c'est assez sympa, c'est un petit peu technique, mais pas trop. Et c'est un projet très très sympa.
Et pour finir,
le journal du net, la filière open source va bien. Merci, article de Patrice Bertrand. Donc, oui, c'est la suite donc, de ce que disait Fleur Pellerin la semaine dernière sur la nécessité, selon elle, de la filière open source de se restructurer. C'est le terme qu'elle avait employé, en tout cas qui avait été relayé. Et donc, réponse de Patrice Bertrand. Il avait fait un article une semaine avant qu'elle dise ça, qui était un petit peu dans cette idée-là. Et là, il enfonce le clou. Il fait vraiment la promotion du Conseil national du logiciel libre, qui est cette association qui regroupe
quelques 300 entreprises.
Entreprise PME du libre. Et il y a d'autres structures qui représentent l'open source plus, le libre, etc. Mais avec des grosses boîtes, là, c'est vraiment une structure avec des PME.
Moi, je rajouterais, l'April représente 500 entités morales, mais c'est pas très grave. Allez jeter un œil si vous voulez revoir.
C'est effectivement une structure qui est là pour défendre les intérêts, etc. Donc, c'est sa réponse à la ministre en disant, mais nous voilà, nous, on est structurés et ça fait 3 ans qu'on a commencé, etc. Et on existe. On sent dans l'article qu'ils sont en train de se tacler entre on sait pas trop qui, puisqu'il dit, mais dans ce contexte, certains veulent faire croire que notre filière serait encombrée d'un trop-plein d'associations rivales. Il dit pas qui, mais je serais curieux de le savoir.
Bon, sur ce, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Salut tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Que l'on remercie pour cette revue de presse et puis un petit peu de musique à présent.
Un petit peu de musique avec une sortie qui date un petit peu.
2011, oui.
Tout à fait, qui est la 64e sortie de ce net label suédois qui s'appelle... 33 Seconds, Un très bon net label suédois. J'en pioche régulièrement des artistes, des morceaux de musique. Et on va découvrir donc Azura, qu'on a déjà découvert, mais en solo. Alors que là, c'est avec la collaboration d'une Canadienne, Gracielita. Et donc, voilà, on va écouter donc Motionless, premier donc, titre de cet album, Apart, et c'est en licence Creative Commons by SA 3.0.
Voilà, Gracielita qui porte rudement bien son nom, car on pourrait la dire la gracieuse Gracielita, comme on le voit sur le site de 23seconds.org, le net label que nous mentionnions à l'époque, à l'instant, voyons.
I'm not afraid to die.
Motionless, immobile et non pas sans émotion, c'est pas emotionless, vous l'auriez bien compris, c'est sous licence Creative Commons by SA 3.0 et c'est le groupe Azura qui accueille ici Gracielita, artiste canadienne comme on le disait juste avant. Nous étions donc au Fosdem ce week-end dernier pour voir tout plein de choses. Est-ce que je sais que toi, Pascal, tu as filé un coup de main à captation vidéo, tout ça, mais est-ce que tu as pu voir une conf ou un truc
Ben justement, en participant.
En joignant l'utile à l'agréable.
Exactement. Donc j'étais sur... les Fosdem ont besoin de bénévoles pour que ça tourne. Et donc j'ai rejoint comme ça l'équipe de la captation vidéo pour leur donner un coup de main. Parce qu'il y a des rotations à faire pour s'échanger les équipes. Si tu as besoin de t'absenter, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un, au moins deux personnes, au moins une personne qui assure le cadrage, la régie, puisque c'est retransmis aussi en direct.
Voilà, il y avait 5 streams, je crois, vidéo qui alimentaient le FOSDEM.
Absolument, absolument. Tout à fait. Donc, voilà. Et donc, j'ai pu suivre différentes conférences sur des OS embarqués sur les téléphones, d'ailleurs. Et puis, ça, c'était samedi. Et dimanche, sur d'autres conférences dans un autre amphi concernant, par exemple, le Samba 4 ou Firefox OS. Des très bonnes choses.
Voilà, c'était à la fin du Fosdem qu'on a croisé fort opportunément Benjamin Zontag, un des cofondateurs de la Quadrature du Net, qui était venu quelques jours avant le Fosdem pour participer à une présentation de la naissance très officielle du groupement d'utilisateurs Linux du Parlement européen, donc dans le cadre du Fosdem, Bruxelles qui va accueillir les rencontres mondiales du logiciel libre ce début du mois de juillet 2013. Donc on peut espérer que du côté du Parlement européen, les choses évoluent un petit peu. Benjamin Zontag qui va évoquer donc les raisons de sa venue à Bruxelles, qui va évoquer aussi le succès et l'utilité du Pifone, une application qui permet à tous les ressortissants européens de contacter d'un seul clic et sans avoir à débourser un centime leur député européen pour diverses questions de démocratie. De l'Open Media Kit, qui est une initiative de la Quadrature sur laquelle il va y avoir beaucoup de travail cette année, qui permettra d'avoir votre propre YouTube, tiens, si vous voulez ne pas dépendre de ce célèbre service de vidéo en ligne, et autres libertés numériques. Benjamin Zontag, qu'on a beaucoup vu courir partout sur de nombreux RMLL, qui a été un des piliers aussi des RMLL. On l'écoute.
Benjamin Zontag, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es ici au Fosdem venir au Fosdem, d'une part. En marge de ça, tu as fait un petit tour par le Parlement européen pour parler des libertés, etc.
Oui, à la Quadrature du Net, on est très souvent au Parlement européen, déjà parce qu'on y est souvent invité. Là, en l'occurrence, c'était pour parler avec les Verts de protection des données personnelles et de la réforme de la directive qui est en cours. Et donc, une table ronde très intéressante avec notamment Richard Stallman qui défendait le logiciel libre et puis plein d'autres acteurs de ce milieu-là. Mm-hmm. Aussi les gens de Privacy International, de plein d'ONG, Bits of Freedom, et donc aussi la Quadrature du Net, et puis des entrepreneurs aussi. Et donc, c'était très, très intéressant.
Ils ont été réactifs, les parlementaires
Alors, il y avait pas mal de monde. Il y avait pas mal de députés européens, pas mal d'assistants de députés européens de tous les partis. On avait des EPP, des ALD, des Verts évidemment, des Gays, enfin, un peu tout le monde. Ils étaient assez réactifs, ils se posent beaucoup de questions. Ils attendent surtout à ce qu'on leur apporte des idées, des solutions en fait. Parce que c'est vrai que dans le domaine de la protection des données personnelles, on ne sait pas encore trop comment... vraiment essayer de faire des lois qui soient efficaces, qui puissent durer un peu dans le temps, parce que voilà, on peut faire un truc à la Hadopi qui un an après n'a plus aucun sens, même à la limite n'a jamais eu vraiment aucun sens, mais bon, voilà, qui est tout de suite périmé. Donc voilà, ils sont vraiment demandeurs, donc c'est assez agréable. Donc voilà, on est là, on est prêt à les aider et à répondre à leurs questions. Mm-hmm. Et j'espère à leurs attentes.
Voilà, gageons que la création d'un groupement d'utilisateurs Linux au Parlement aille aussi dans le bon sens.
Ouais, c'était beau ça. Et on a rencontré aussi les gens de l'EPSUG, le European Parliament Free Software User Group, c'est-à-dire le groupe des utilisateurs de logiciels libres au Parlement européen, qui ont un joli petit logo de Hérisson. Ils sont super sympas, ils sont super motivés. Donc on espère que le Parlement européen va enfin être un peu motivé à passer... toute partie de ces infrastructures, de ces utilisateurs, et si les députés européens découvrent la puissance et la fiabilité et la stabilité du logiciel libre, ils puissent en faire quelque chose de bien.
Oui, parce qu'actuellement, c'est 100% Windows, c'est-à-dire la politique de la maison, pour l'instant, en tout cas, espérons effectivement qu'ils iront dans le bon sens. Autre sujet, un petit point sur le Pifone, une application dont on avait déjà parlé sur Divergence, évidemment, qui simplifie grandement le contact qu'on peut avoir avec les députés européens. Ça fonctionne, c'est un logiciel libre, qui tue.
Ouais, c'est assez marrant, ça a pris un peu comme ça. On a un contributeur qui nous a apporté un jour un bout de l'application tout fait. C'est un système qui permet de faire deux appels téléphoniques depuis un serveur sur Internet et de les mettre en relation l'un avec l'autre. Et donc le Pifone, bah, c'est ça. Nous, on en a fait derrière une vraie application derrière avec tout un système de gestion de campagne où on peut typiquement créer une campagne, mettons Contracta ou pour telle partie de la réforme des protections des données personnelles ou autre, et où on invite les gens à appeler une liste de personnes données. Donc là, typiquement, dans notre cas, ça va être une liste de députés européens. Et donc on choisit les députés européens qu'on veut faire appeler par groupe politique, par que ne sais-je, ou ceux qu'on veut cibler en particulier, on leur donne des poids plus élevés. Et puis donc après, les internautes européens ou les citoyens arrivent sur ce site web, ils voient la campagne, on leur explique la campagne, ils voient la photo d'un député en bas, de leur pays en général, ils cliquent sur... soit ils peuvent l'appeler directement parce qu'ils ont son numéro de téléphone, et ils nous donnent un feedback, c'est ça qui est génial avec le Pifone, c'est qu'on invite les internautes et les citoyens à nous dire « Voilà, j'ai appelé un député, je suis tombé sur son attaché, il m'a dit ça, il m'a dit oui, il m'a dit non, je l'ai rappelé, etc. » Et puis sinon, vous pouvez, si vous n'avez pas envie d'appeler vous-même, vous pouvez cliquer sur « Appelez-moi ». Là, vous tapez votre numéro de téléphone, les fois suivantes, on s'en souviendra. Et puis, on vous appelle, on vous dit « Voilà, dans quelques instants, vous allez être mis en relation avec un parlementaire. Appuyez sur 1 quand vous êtes prêt, vous appuyez sur 1, on appelle pour vous le parlementaire et on vous met en relation. » Et ça, c'est génial parce que ça permet vraiment aux citoyens de faire le premier pas. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ouais, merci, dans le feedback d'ailleurs, merci de nous avoir fait cet outil parce qu'on fait le premier pas. » Et après, en général, ils appellent eux-mêmes. Donc on a eu pas mal d'appels à l'époque de la campagne Contracta, le traité commercial anti-contrefaçon qui a été vaporisé au Parlement à 478 contre 35, un truc comme ça. Score de malade, qui arrive rarement quand même. Preuve que les citoyens peuvent se mobiliser pour défendre leurs droits, pour défendre leurs libertés. Et donc le Pifone, bah, ça permet ça. Et on a eu un usage pour l'instant qui n'est pas de notre communauté directe interne à la Quadrature, qui va peut-être être un sujet maintenant de la Quadrature d'ailleurs, on va le prendre en main aussi, qui est la brevetabilité logicielle, et notamment le problème de brevets unitaires en Europe. Et donc Gérald Sodrati-Dinet, Gibus, qui s'occupe de ce sujet full-time, a sa propre instance du Pifone, parce que c'est un logiciel libre, donc il peut l'utiliser, on lui a installé son instance. Vous pouvez télécharger le code source, je ne sais plus trop où, sur GitHub, je crois, quelque part. Enfin, sinon, vous demandez, hein, contact@laquadrature.net. Et donc, c'est un bel outil.
Un bel outil qui simplifie, au lieu de composer les 10 chiffres ou les 12 chiffres d'un numéro, ben, avec un clic, on arrive à faire le premier pas. Un clic, un premier pas, c'est quand même vachement génial.
Ouais, c'est sympa. Et surtout, on a un exemple qu'on prend souvent, c'est typiquement pour un étudiant lituanien à Vilnius, passer un coup de fil à Bruxelles, ça peut coûter un peu cher quand même. Ouais. Donc là, l'avantage, c'est que ça lui coûte rien. On l'appelle le parlementaire, donc c'est nous qui payons la communication téléphonique. Et honnêtement, passer 10 000 coups de fil de 5 minutes en moyenne, allez, même pas 2 minutes en moyenne au Parlement européen, ça fait 20 000 appels à faire router. En termes de coûts pour la Quadrature ou pour ceux qui font les campagnes, c'est rien. Si on parle de 100 ou 200 euros, c'est rien parce que ça a un effet massif sur la visibilité de nos campagnes auprès des parlementaires européens. Et l'autre avantage, c'est que c'est quand même quelque chose de plus difficile à faire que d'envoyer un simple mail ou de copier-coller des arguments. Ça nécessite que les citoyens se prennent un peu en main. Et donc, comme ça nécessite cette prise en main, les députés européens ou les personnes que vous ciblez dans votre campagne sont beaucoup plus à l'écoute finalement. Et ils se rendent beaucoup plus compte du poids que ça peut avoir pour les citoyens. Donc l'effet est vraiment très intéressant.
Alors toujours dans le côté logiciel, mais dans un autre registre, AlternC, beaucoup de nouveautés, beaucoup de trucs. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément non plus des informaticiens, AlternC, à quoi ça sert ?
Ah bah ça sert à vous simplifier la vie quand vous voulez faire votre site web. Alors c'est pas pour faire le site web, mais plutôt pour l'héberger. Typiquement, héberger, ça ne veut pas dire grand-chose à grand monde. C'est juste que sur Internet, de l'autre côté de votre navigateur, à l'opposé, en face, il y a des serveurs qui doivent servir vos pages web, vos pages de blog ou votre email, recevoir vos emails pour vous et pouvez vous les stocker en attendant que vous veniez les chercher typiquement, ou stocker vos données, vos vidéos, je ne sais pas quoi, que vous partagez avec d'autres. Et donc pour ça, il faut un petit serveur. Le problème, c'est qu'après, il faut l'installer, le maintenir, le mettre à jour et tout, c'est un peu la galère. Puis il faut aller faire des lignes de commande, souvent un peu compliquées pour se créer une adresse email. Donc AlternC, c'est une interface web qui permet de simplifier ça. Donc vous faites clic-clic, vous avez votre nom de domaine, vous faites clic-clic, vous avez un email sur ce nom de domaine et vous faites clic-clic, vous avez une base de données pour installer votre WordPress ou votre blog. Donc ça simplifie pas mal le process. C'est un logiciel qui existe depuis 2001. Et puis il était un peu moribond. Enfin, c'est-à-dire qu'on le maintenait vaguement pour nos usages de quelques boîtes qui l'utilisent et associations. Et en fait, depuis 2 ans, il y a des nouvelles têtes qui arrivent, plus jeunes, dynamiques, motivées. Et donc, voilà, on a eu 2 nouvelles versions en 2 ans de temps. Et là, on sort la 3.0 courant février, apparemment. On a déjà sorti 3 pré-versions de la 3.0 pour la tester, pour débugger à mort avant de la sortir au public. Et donc, voilà, on est très content qu'il y ait des jeunes qui se lancent dans le logiciel libre et qui nous aident à maintenir des projets qui méritent d'être maintenus pour simplifier la vie des internautes et des utilisateurs.
alternc.org
pour les développeurs, .com pour ceux qui veulent juste savoir de loin ce que ça veut dire, parce que le .org c'est vraiment pour les devs quoi. Mmh. Voilà.
Et puis dernier thème, on va dire faire concurrence à YouTube en pouvant avec 3 clics avoir son propre YouTube.
Alors ça c'est un vieux projet de la Quadrature du Net, parce qu'à la Quadrature du Net on fait de l'activisme, c'est-à-dire qu'on va voir les parlementaires et on leur dit hey, faut comprendre Internet, mais on fait aussi de la création d'outils pour redonner le pouvoir aux citoyens. Et il y a un outil qu'on avait créé à plusieurs, vite fait, en 2 nuits, sans sommeil, qui s'appelait le MediaKit, qui est accessible d'ailleurs sur MediaKit, mediakit.laquadrature.net. Et vous allez voir si vous allez, c'est pas beau. Mais au moins, tout est là. Et tout, quand je dis tout, c'est-à-dire qu'il y a toutes les vidéos de tous les passages médias, de tous les trucs qu'on rapporte avec les sujets de la Quadrature du Net. Donc c'est un peu notre YouTube à nous. Et c'est sympa. Ça permet de décentraliser un peu Internet, d'éviter que YouTube et tout, et puis censure et tout, le cas échéant. C'est quand même pas rassurant, puis ça arrive souvent quand même. Mm-hmm. Ça nous est déjà arrivé, a fortiori. Et donc, ce MediaKit, le problème, c'est qu'il est, enfin, il est pas maintenu, il a été écrit vite fait parce qu'on en avait besoin. Et donc, ça fait 3 ans qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse un nouveau MediaKit, plus propre, mieux réfléchi, parce que maintenant qu'on a cet outil, on sait exactement comment il faudrait le refaire mieux. Mm-hmm. Et le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de logiciel libre qui nous satisfasse. Pour ceux qui fouillent un peu, il y a Kaltura, il y a... je sais plus, il y en avait d'autres. Il y en a la Free Software Foundation aussi, dont j'ai oublié le nom. Mais bon, ils marchent pas, ou ils sont compliqués à installer, ou ils sont pas assez modernes à notre goût, ou loin de là. Enfin, le plus souvent, on n'arrive pas à les faire fonctionner, tout simplement. Ou alors, il faut un bac plus 12 en geekerie pour y arriver. Donc voilà, on a donc lancé ce projet tout début janvier 2013, donc c'est vraiment très très récent. Ça s'appelle l'Open Media Kit. Ça fait 1 an qu'on a le nom en tête, mais ça fait depuis janvier qu'on commence vraiment à développer. Et l'idée, c'est qu'on a divisé ce logiciel en 2 parties. Il y en a une, c'est comme WordPress, par exemple, c'est clicou, 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 vous avez votre morceau de MediaKit qui vous permet de faire votre YouTube chez vous. Sauf que, pour ceux qui connaissent, dans le monde de la vidéo sur Internet, il y a un problème, c'est qu'il faut transcoder les vidéos. C'est-à-dire que vous envoyez n'importe quel format qui sort de votre appareil photo numérique, il ne peut pas être lu sur le web. Donc il faut le convertir avec des codecs, tout ça, c'est compliqué, c'est même très compliqué. Et donc, en fait, on a fait ce logiciel en 2 parties. La partie clicou, clicou, c'est pour vous, pour mettre sur votre blog. Et la partie un peu dur, en fait, ben, on va mettre en place des instances, c'est-à-dire des versions de ce logiciel qui tourneront un peu partout. Puis si vous avez, en gros, tous les geeks qui ont un serveur, ils pourront mettre cette instance de la partie transcodeur du MediaKit chez eux, voire l'ouvrir au public. Et on a déjà plusieurs personnes qui sont prêtes à nous ouvrir des serveurs au public pour que ceux qui utilisent le transcodeur côté facile à utiliser puissent utiliser notre système de transcodeur pour ne pas avoir à gérer et à maintenir dans le temps ce côté un peu galère de la gestion des vidéos au sens purement technique. Donc la partie que vous installeriez pour votre blog ou autre, c'est juste une application un peu comme WordPress, PHP, MySQL pour la technique, très simple à installer quoi. Donc la partie simple d'un côté, la partie compliquée décentralisée, mais centralisée à quelques points où il y a des geeks qui le maintiennent, et comme c'est un service, la partie transcodage qui ne nécessite pas beaucoup de puissance, enfin, pas beaucoup de ressources, voilà, on peut la mettre à disposition vraiment gracieusement sans problème.
Pour 2013, pour toi c'est quoi le grand pari de 2013 à part lutter contre la brevetabilité logicielle, c'est peut-être encore le pitch de l'année.
Bah en fait, 2013, on n'est plus vraiment, je sais pas, enfin, en tout cas moi personnellement, je suis plus vraiment dans une logique d'année à année. Mm-hmm. Comme on dit souvent, comme la sécurité informatique, c'est pas un truc qu'on fait à part, c'est vraiment un processus. Bah, pareil, pour ma vie en tout cas, c'est une histoire de processus. On a le processus quadraturien qui est de dire défendre la liberté sur Internet. C'est pour ça qu'on inclut la brevetabilité, parce que ça fait partie de ces libertés. On a inclus aussi récemment tout ce qui est vie privée, parce qu'il y a des choses vraiment cruciales et vraiment dangereuses qui ont lieu dans ce domaine-là. Si je prends un exemple tout simple, sur les 100 sites les plus visités au monde, il n'y en a qu'un qui ne traque pas ses utilisateurs, qui ne les suit pas à la lettre et à la goutte et à la millipage. Et le seul de ces 100 sites, c'est Wikipédia. Les 99 autres tracent leurs utilisateurs, les suivent et les profilent, hein, clairement, et les espionnent à fond, quoi. Donc c'est, voilà, ça c'est inquiétant, donc ça c'est un processus sur lequel voilà, on travaille. quotidiennement, sans se poser la question de si on est en 2012 ou en 2013. Et sinon, bah, y a justement ce fameux projet de MediaKit qui est quand même un très gros, très, très, très gros projet qu'on a vraiment en tête depuis des années. Donc le fait que là, on ait un budget pour le faire développer, un développeur pour le lancer, voilà, ça nous permet de décoller sur ce sujet. Mmh. Donc c'est vraiment pour moi le sujet que je vais suivre en 2013. Mmh. Et donc, puis après, bah, voilà, continuer à défendre le logiciel libre et puis à apporter un peu de nos compétences à ceux qui en ont besoin.
Et puis pour terminer, tout à fait, on parle beaucoup de neutralité du net depuis quelques années. Dans les dernières semaines et derniers mois, on dit neutralité des réseaux. On arrête de dire neutralité du net, on dit neutralité des réseaux. Est-ce que parce qu'on a vu, hein, pour Stallman, dire propriété intellectuelle, c'est un abus de langage, y compris pour Albert Jacquard ou d'autres. Mais il y a cette distinction entre neutralité du net et des réseaux. Donc, pour toi, c'est un faux débat.
Quand on dit net, ça vient de c'est l'anglais de réseau. Donc,
oui, network.
J'ai comme l'impression que c'est juste un peu comme dire, enfin, c'est la traduction française, c'est tout. Donc je pense pas qu'il y ait la moindre différence dans ce cas précis. C'est peut-être juste une francisation, comme nos amis québécois le font souvent, d'une francisation du mot net en réseau. Mais voilà, j'ai pas d'inquiétude particulière linguistique là-dessus.
On est rien à voir entre la différence entre HTTP 2. Et
Non, pas du tout. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a pas de différence dans ce cas précis. C'est la défense du fait de ne pas discriminer les contenus selon la provenance, le destinataire, l'expéditeur ou la nature du contenu sur Internet. Et ça, c'est la neutralité du net, la neutralité des réseaux, vous l'appelez comme vous voulez. C'est quelque chose qui a besoin d'être défendu. Exactement de la même façon qu'il ne vient pas à l'idée à la poste d'ouvrir tous les colis qui passent à travers leurs mains. Voilà.
Benjamin Zantag, cofondateur de la Quadrature du Net, rencontré donc à la fin du FOSDEM pendant le démontage. Vous aurez entendu les bruits de démontage et de vidage de bouteilles vides derrière lui. Divergence numérique, 157e émission, 93.9 Divergence FM à Montpellier, Radio Escapade sur le 103.3 et le 104.1 et les 87.8 et 98.6 de Radio Larzac que l'on salue bien.
Radio Escapade de 102.0 à la salle.
Et 102.0 à la salle, ma petite note était totalement incomplète. C'est un manquement auquel je ne manquerai pas de remédier très prochainement. Au prochain épisode d'ailleurs, ce qui nous fait une transition absolument parfaite pour ce titre. Episodes, toujours avec le groupe Azura en featuring avec Gracie Elita, extrait de l'album Apart en 2011 sous licence Creative Commons by SA 3.0. Episodes, toujours extrait de l'album de 2011 Apart de Zura et Grazielit. Le FOSDEM s'est terminé, c'est une rencontre de développeurs de logiciels libres et open source. Ils ont réuni plus de 5000 geeks sur un week-end. Ils se félicitent du gros succès de cette année. 13e édition. Beaucoup de remerciements à tous les orateurs, les bénévoles et les visiteurs pour avoir rendu cet événement, encore une fois, un succès. On peut tout de suite préciser que si vous voulez voir ce qu'il a pu s'y passer, parmi les dernières interviews qui ont été réalisées, car ils ont la bonne idée de faire les petites interviews de la plupart, de leurs principaux intervenants, les trois dernières en date, c'est Morten Kingley sur l'open source dans la robotique, Jeremy Allison sur Samba 4 ou encore Kosuke Kawaguchi sur la communauté Jenkins. Mais il y en a tout un paquet qu'on retrouve sur la page Idoine. Il y en a déjà un petit paquet, ainsi que pas mal de vidéos sont déjà en ligne.
Oui, il y a déjà une grosse partie des Lightning Talks en ligne, et les vidéos aussi des différentes conférences qui arrivent sur l'archive. On peut remonter aussi sur les archives des années précédentes également.
Tout à fait, et puis pour les grosses conférences, d'ores et déjà on peut voir la conférence sur le Firefox OM, sur la Freedom Box,
très bonne, 4. Très bonne conférence sur Freedom Box.
Que tu as vu.
Oui, j'ai capté. J'ai vu, donc c'est doublement motivant et l'orateur a été très très bon.
Voilà, il sera peut-être de retour d'ailleurs au mois de juillet, allez savoir.
Possible.
Donc voilà, ça se passait donc à l'Université Libre de Bruxelles, on va dire quartier XL, parce que l'Université Libre de Bruxelles, elle est partout.
ULB.
Elle est aux quatre coins de la ville. Et puis c'est plutôt encourageant justement pour... on va dire le libre à Bruxelles, capitale européenne, comme on l'a dit tout à l'heure, et espérons que ça fera bouger des choses.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, il y a eu plein de monde, il y a eu plein d'huile de friture aussi, bon, pour ceux qui aiment les baraques à frites, mais c'est un petit peu normal, couleur
Bruxelles,
locale.
Bruxelles.
Voilà, et puis on vous
des
conseille d'aller
bizarre,
faire
tout ça.
Voilà, il faut aller faire un tour. Il faut aller faire un tour pour sur fosdem.org/2013 pour retrouver un maximum, et puis gageons que toutes les autres enregistrements ou vidéos seront ramenés sur le devant du site, et on piochera aussi là-dedans pour faire des petits doublages pour se tenir au courant des dernières évolutions de tout ceci.
Et oui, puis la langue de toutes ces conférences Lightning Talks, de tous les événements publics, puisque c'était ouvert à tous, il n'y a pas de participation financière pour l'entrée. Il y en avait plus de 488 quand même, et donc la langue officielle c'est l'anglais de tous.
Voilà, que ce soit pour les dev rooms, les grandes conférences, les conférences éclairs ou même la bière. La bière était en anglais, non, elle était bien en belge la bière, et on a pu s'en rendre compte. Et puis c'était aussi la raison de notre venue, c'était aussi pour, on va dire, encourager l'équipe bruxelloise des rencontres mondiales du logiciel libre.
Faire connaissance déjà avec
faire
eux.
Faire connaissance, puis repérer un petit peu les lieux, puisque ça se passera au même endroit.
Exactement, donc on a pu rencontrer comme ça ceux qui étaient... Ceux de Bruxelles qui sont dans l'organisation des rencontres, y faire aussi deux bonnes réunions samedi après-midi et dimanche aussi pour faire connaître les rencontres mondiales du logiciel libre ou LSM, Libre Software Meeting, pour les Bruxellois, pour ceux qui sont déjà venus aussi aux rencontres mondiales et qui justement c'était un appel à volonté, à ressources humaines pour mener à bien les rencontres en juillet.
Voilà, et je tiens à préciser que, contrairement aux bruits qui ont pu courir, elles ne sont pas annulées, elles auront bien lieu. Et ça, c'est aussi la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de ce petit séjour. Parce que c'est vrai qu'après la, la sélection de la ville de Bruxelles sur présentation du dossier, qu'on ne peut féliciter leurs auteurs d'avoir, d'avoir fait, eh bien, ça s'était un petit peu, on va dire, affaibli au niveau leadership. Et je pense que à la fois la présence des Montpelliérains, la présence des Bordelais, la présence des Suisses qui organisaient l'édition genevoise de l'année passée, Montpellier qui l'accueille l'année prochaine, je pense que ça, ça a bien contribué d'une part à motiver les troupes pour venir voir à ces réunions. Et puis c'est vrai que même François Pellegrini était venu le samedi pour, pour dire deux, trois petits mots. Et c'est vrai que le dimanche, il n'y avait pas les mêmes personnes que le samedi et plein de gens qui étaient prêts à endosser certaines responsabilités. Donc bravo.
Surtout que déjà, il y a un travail, il y a différentes tâches qui ont été, qui sont en cours de réalisation. Donc, ça ne part pas de zéro. Il y a des choses à établir, à fixer, à contractualiser. Et donc, il reste des choses à faire.
Et à bien faire. Évidemment, on se tiendra au courant de l'évolution de l'organisation des rencontres mondiales. Peut-être aurons-nous même, comme l'année passée, une fréquence temporaire pour émettre, ou alors on squattera celle de Radio Campus si c'est possible. On vous tiendra au courant de tout ça. En attendant, avant de retrouver les petits rendez-vous, agenda du libre, une petite pause musicale avec toujours avec Azura et Gratielita. Ce Being Alone. Non, vous n'êtes pas seul.
chest.
Oui, il y a des fois. Il y a des fois où on aime bien se sentir seul, mais il y a des fois où on n'aime pas se sentir seul. C'est ainsi que...
Alors, j'ai une breaking news, là, qui vient juste
breaking
de tomber.
Breaking news.
Breaking news. Amazon qui reçoit un brevet pour vendre des biens numériques d'occasion.
Des biens numériques d'occasion.
Et oui, aux États-Unis, Amazon a obtenu un brevet qui lui permettant de créer un système pour revendre des fichiers numériques usagés.
Des fichiers
en
numériques.
En réintroduisant le principe de la rareté dans la sphère numérique via des verrous numériques, bien sûr.
Ah bah oui, voilà.
Le site de e-commerce pourrait ainsi créer un marché d'occasion pour vendre des fichiers MP3, des vidéos, des applications ou encore des livres électroniques usagés. Non mais c'est fort ça.
C'est vraiment, c'est n'importe quoi, mais je crois que vraiment c'est n'importe quoi. Nous touchons le fond, mes bons amis. Ah ouais, mais
pas, pas que le fond, c'est vraiment en dessous là.
Oui, c'est le fond du fond, c'est le fond de la connerie. Un front à l'abri duquel nul n'est, ni vous, ni moi. Enfin bref, voilà, bah voilà, c'était une breaking news qui envoie le bois. Entre autres breaking news, pas mal de rendez-vous sur agendadulibre.org avec des réunions mensuelles un petit peu partout, à Caen, au Toulonnais, à Rennes, au Mans, à Nantes, à Marseille, à Brignoles, à Dijon, enfin voilà, agendadulibre.org. Rencontre logiciel libre à noter à Toulouse le 20 février, si ça nous laisse le temps de nous organiser pour y aller. Et puis voilà, pour on va dire... Le
18 février de 19h30 à 22h30, un atelier SPIP à Kawanga, 21 boulevard Louis Blanc, ça c'est beaucoup plus près accessible. 17 février, mardi... Oui. De 9h à 12h, des ateliers Notion PC, toujours atelier openoffice.org, LibreOffice, à la médiathèque de Téran, place du Ballon, ça c'est toujours les mardis. Et puis n'oublions pas aussi, tous les mardis aussi, à la Maison des Jeunes et de la Culture André Malraux, à Castelnau, 10 avenue de la Moutte, découvrir et installer Linux, initiation au logiciel libre.
Oui, ça c'est l'agenda de Montpellibre auquel j'allais venir, j'y allais. Tant qu'on y est, on précise aussi le 20 février, comme le 20 de chaque mois, le livret d'information de la Libellule destiné aux utilisateurs du Libre, qui sera disponible. Et puis les rendez-vous du Libre du jeudi 21, ce sera une rencontre à débat sur l'actualité. Ça sera toujours évidemment, ce sera à Perpignan, figurez-vous, 12 rue du Cartelet, décidément tout le Languedoc-Roussillon. Va devenir
N'oublions pas actif. Nos gardois aussi, le 12 février de 19h à 23h, les rendez-vous du Libre au centre socioculturel Marcel Pagnol, 99 rue Marcel Pagnol à Vergès, deuxième mardi en fait du mois.
Voilà, à Vergès, des infos qu'on retrouve évidemment sur montpel-libre.fr pour tout ce qui concerne ceci. Agendadulibre.be, le domaine semble être... à vendre. Donc, rachetons-le. Les petits administrateurs, agendadulibre.be, étaient peut-être aux FOSDEM et sont tombés dans une barrique de bière et ont oublié de renouveler leur domaine. Côté Suisse, c'est plutôt le calme plat. Un LDAP Kerberos aura lieu à Beausobre. Ce sera le 5 mars. Ça laisse pas mal de temps. Et puis, côté canadien, des petites choses, notamment la deuxième rencontre du Parti Pirate de Montréal. Ça aura lieu le 13. Et puis, les indispensable Club Atomix qui se réunissent à Montréal très très régulièrement. Une présentation de Linux IPv6, concept et notions pratiques, ce sera le 21 à Québec. Je crois qu'on a fait vraiment le tour du tour. Il nous reste 30 secondes pour nous quitter avec Bit by Bit, toujours extrait de ce fil rouge de la semaine, en vous souhaitant de la passer bonne et de rester libre.
Tiens, restez libre, à la semaine prochaine.
Salut à toutes, salut à toutes.